Bonsoir, bienvenue. Permettez-moi de me présenter. Je suis Guy Berthiaume et je suis le président directeur général de Bibliothèque Archives nationales du Québec. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous souhaiter donc une heureuse Saint-Valentin. Et pour ceux d'entre vous qui auraient pu se tromper, c'est 50 ans d'humour et pas 50 ans d'amour. Donc, vous avez encore le temps de vous faufiler si vous vous étiez trompé. Je veux bien sûr remercier nos partenaires. Michel Fortin de Télé-Québec, Claude Plante de Télé-Québec et Sylvie Godbout, qui est toujours fidèle, la directrice générale de Canal Savoir. Parce que, comme vous le savez, cette série est rediffusée sur Canal Savoir. Je remercie aussi très particulièrement et chaleureusement l'UQAM, son recteur Claude Corbeau, et bien sûr mon amie la doyenne de la Faculté des arts, Louise Poisson, qui a, avec son équipe du décanat, conçu l'articulation logique de notre série de conférences. Je vais d'ailleurs céder tout de suite la parole à Louise, attirant votre attention sur le rouge magnifique et valentinien de son kit. Et je vais aussi en profiter pour vous demander d'éteindre vos téléphones portables. Bonne soirée à toi, Louise.
Merci Guy, c'est 50 ans d'humour, mais c'est vrai que c'est la soirée de l'amour, alors il fallait porter la couleur. Nos invités de ce soir, d'abord Louise Richer, qui est à la tête de l'École nationale de l'humour depuis 1988. Elle y occupe les fonctions de directrice générale et pédagogique. Elle a fait des études en psychologie à l'UQAM et elle a pratiqué la psychologie pendant un an avant de tout quitter pour suivre des cours de théâtre. Au début des années 80, elle a étudié à l'Actors Studio à New York. À son retour, elle monte un numéro avec Serge Thériault et Claude Meunier, qui n'étaient pas encore ding et dong. Elle se retrouve plus tard directrice artistique des lundis des Ara, puis des lundis Juste pour rire, et joue également dans Les Voisins. Puis, en 88, elle accepte la direction de l'École nationale de l'humour. En parallèle, elle poursuit sa carrière de comédienne à la télévision et au cinéma. On la voit dans Les Matins infidèles, Cruising Bar, Tandem, Cormoran, Sortie de secours, Le cri de la nuit, Des fleurs sur la neige, La grenouille et la baleine, Un gars et une fille et d'autres. Elle signe aussi la mise en scène de plusieurs galas, des Oliviers et des Gémeaux, et de Juste pour rire, et elle a été productrice au contenu du Bye Bye de 2011. En 2010, elle a reçu le prix reconnaissance de l'UQAM pour souligner la qualité exceptionnelle de son parcours professionnel. Louise va animer la rencontre de ce soir où nous retrouverons Pierre-Michel Tremblay, qui est co-auteur de plusieurs séries populaires pour la télévision, parmi lesquelles on compte Un gars, une fille, qui a mérité 4 prix Gémeaux. Il a également signé des textes pour Michel Barrette, le groupe Sanguin, Marie-Lise Pilote et le tandem Lévesque-Turcotte. En 1996, il fondait sa compagnie de théâtre, Les Éternels Pigistes. Pierre-Michel Tremblay, professeur de créativité et d'histoire de l'humour à l'École nationale de l'humour. Elle reçoit aussi les Denis Drolet, deux représentants de l'humour absurde, Sébastien Dubé et Vincent Léonard, ont deux albums originaux à leur actif, l'un paru en 2002 et un deuxième en 2006, ainsi qu'un album de reprise des chansons de Plume la Traverse, intitulé Chant de Plume, paru en 2009. Ils ont participé à plusieurs galas Juste pour rire, ainsi qu'à de nombreux spectacles d'humour. Ils ont d'ailleurs remporté le Félix du meilleur spectacle d'humour de l'année 2005 pour leur spectacle intitulé Au pays des Denis. Je laisse à Louise le soin de mieux présenter ses invités, de les chatouiller pour les faire parler pour notre plus grand plaisir. Ils ont 55 minutes pour nous faire rire.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Allô.
Alors, ben, merci d'être là. On est très heureux d'être là. Alors, je pense que les présentations ont été assez complètes de mes comparses, mes Valentins pour ce soir. Alors, Pierre-Michel Tremblay, Merci beaucoup, qui est à la fois, c'est bonsoir. Ça, un auteur qui a baigné et dans la comédie et dans le théâtre. C'est merveilleux de pouvoir concilier les deux. Et les Inqualifiables, Denis Drolet, qui ce soir officieront comme interprète de quelques-uns des plus grands textes d'humour de nos grands humoristes au Québec. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. Ça va?
Ben oui, ça va bien. Saint-Valentin, une bibliothèque, un petit bel lien.
Bon, t'avais droit à un sac ce soir, ça y est, c'est fait.
Ah oui, non, c'est fini. Ce sera pas facile. Tout de suite, t'en allais.
Ça sera pas facile?
On est bien, hein?
Très bien assis. Ben oui. Oui, vous êtes bien assis. Alors, bien, sincèrement, merci d'être là. Puis, je tiens à vous dire à quel point on est heureux d'être des festivités entourant, évidemment, les 5 ans du ministère de la Culture. Puis, je dirais même qu'on est touchés de se retrouver à la table de toutes ces activités en compagnie des gens de théâtre, des gens de la danse, de la musique et des autres disciplines artistiques qui contribuent de façon incroyable à la fabuleuse effervescence du milieu culturel du Québec. Parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant que les arts dits élitistes et les arts populaires, depuis à peu près toujours, font chambre à part. Et ça, c'est une façon délicate, c'est un euphémisme de dire ça quand c'est pas d'un côté, ils sont en haut de la côte puis les autres sont en bas de la traque. Alors, mais heureusement, je peux affirmer aujourd'hui, puis j'en suis fort contente, j'ai l'impression qu'on perçoit une volonté de considérer toutes ces expressions comme autant de révélateurs signifiants de ce que nous sommes, et donc qui portent un éclairage diversifié soit, mais tout autant précieux sur notre identité. Alors, très, très merci beaucoup à tous de nous permettre d'être ici parmi vous ce soir.
Bravo!
Bravo, hein?
Je pense que c'est là que ça finit, en plus.
Oui.
C'est
fin.
Merci. J'ai un avertissement à vous faire avant de débuter comme tel, parce que je dois vous dire que ce soir, nous serons irrévérencieux, odieux, mais c'est pas à cause de Denis Drolet, c'est bien parce que, écoutez, il y a quelques grands noms de l'humour qu'on va à peine évoquer et d'autres qui sont carrément absents de notre survol. Alors, 50 ans en 50 minutes, c'est un méchant défi, d'autant plus que les humoristes étant des communicateurs, eh bien, on les retrouve un peu partout, que ce soit la scène, la télévision, le cinéma, la radio et l'imprimé. Alors, imaginez d'essayer de combiner le tout et de ramasser ça en 50 minutes. C'est une mission impossible que nous avons naïvement acceptée. Alors, et puis, on espère que vous ne nous... On a répété quelque chose.
Vous ne nous en tiendrez pas, les gars.
J'espère que vous ne nous en tiendrez pas, les gars. Oui, c'est ça. Elle dit que c'était
mes
élèves de l'École nationale de l'humour. J'ai été leur directrice. Voyez comment je suis traitée ce soir. C'est incroyable. Alors, donc, on part en balade, tout le monde ensemble. Minimum 200 000 à l'heure. On va faire des petits tatas sur les gens qui vont border notre route. Et par moment, on va faire quelques haltes. Nous prendrons le temps de savourer un à un quelques-uns de nos plus grands comiques. Alors, pardonnez-nous la vitesse de croisière, mais c'était la seule façon de réussir à faire cette commémoration. Appelons ça ici. Alors, voilà. Autre petit point, évidemment, l'humour est indissociable de la toile socio-psychopolitique. L'humour s'enracine et s'alimente comme une bactérie mangeuse de chair au plus profond de nos valeurs, de nos interdits, de nos perceptions et des vagues qui secouent la société. Puis même l'humour, encore plus que ça, fait partie de nos vies privées. C'est un facteur de distanciation, c'est un facteur d'adaptation, voire de résilience. Alors, elle occupe à peu près toutes les sphères. Elle occupe la sphère privée de nos vies, puis elle occupe évidemment la sphère publique. Alors, je prends l'occasion pour saluer, entre autres, ceux qui sont dans la sphère publique. J'ai un tel respect pour le métier d'humoriste qui a l'air si facile. C'est ça, la magie, d'une certaine façon, de l'impression que ça se fait avec un naturel désarmant, alors que je sais pertinemment maintenant, après 24 ans à l'École de l'humour, tout ce que ça représente de travail, de préparation, de discipline et de persévérance. Alors, voilà. Oui! Alors, écoutez, bon, et puis là, si on dit 2012 moins 50, on est en 1962, mais Je tenais à ce qu'on tire le fil quand même du début du siècle dernier jusqu'aux années 60 pour un peu mieux, pour brosser en fait le paysage humoristique pour qu'on se rende donc jusqu'en 62. Et je demande à mon ami Pierre-Michel de nous brosser ce tableau. Alors, Pierre-Michel, sors ton pinceau.
En fait, je vais tracer deux grandes lignes seulement. Du début du 20e siècle jusqu'à 1962, pour bien comprendre la première trame de 1962 à 1980. En fait, c'est divisé en une première vingtaine, une deuxième vingtaine, puis la dernière dizaine. C'est que il y a la culture états-unienne, américaine et la culture française duquel on est tributaire. Et dans le burlesque, on adapte beaucoup les canevas américains. On traduit, on adapte beaucoup les canevas américains. Et de l'autre côté, il y a la culture française où on monte du Molière, on monte une façon très française de faire des variétés. Alors là, évidemment, vous allez penser à Olivier Guimond-père, Olivier Guimond-fils, La Poune, les grandes figures du burlesque. Dans le coin où on est ici, il y a le Monument national, il y a le TNM, donc le quartier des spectacles. C'était très vivant et c'était sur la liste de tournées des compagnies de burlesque américains.
C'est intéressant de savoir, d'ailleurs, que, par exemple, ce qui est le TNM aujourd'hui, qui était la Comédie canadienne avant, a été le Gaîté. Il y a même le Caprice, qui est maintenant qui était sur Saint-Laurent. C'est le Club Soda.
Oui.
Alors, évidemment, là, ce qui est le quartier des spectacles aujourd'hui, effectivement, abritait à peu près tout ce qu'il y avait de burlesque, de théâtre et de cabaret.
C'est ça, et nos amis les burlesques adaptaient donc des canevas américains. Et un des premiers auteurs qui a créé un personnage de comédie qui a été adopté très rapidement par les gens ici, c'est Gratien Gélinas avec Fridolin, qui est un personnage qui est issu d'une émission de radio, Le Carrousel, et qui a amené sur scène après, il a fait des revues. Mais c'était un des premiers personnages qui était écrit par un auteur de comédie d'ici, parce qu'avant, il faut bien comprendre que c'était des canevas américains. Puis en parallèle, il ne faut pas perdre de vue la façon française de faire de la variété et de l'humour aussi. Alors, quand est arrivée l'époque des cabarets dans les années 50, ça s'est aussi cristallisé un peu de cette façon-là. Tu avais des cabarets à l'américaine, puis tu avais des cabarets aussi, façon un peu plus variété française à faire, où là, des gens ont commencé à faire leurs propres blagues et à inventer aussi leurs propres blagues. Je pense à les Géraud, là, je pense à des gens qui sont écrits sur mon iPad et que je ne voudrais pas oublier.
Non, il y avait rien que les
Géraud, là. Il y avait...
Ben, il y a Jacques Normand qu'on va retrouver. Jacques,
mais Roméo Pérus, c'est un de ceux qui adaptaient des blagues américaines. Il y avait Raymond Lévesque, il y avait Gilles Pellerin, il y avait une des figures marquantes de ces 40 ans-là, c'est Jacques Normand, qui a animé beaucoup, beaucoup de cabarets, qui a animé une émission aussi télé très importante qui s'appelait Les Couches-Tard. Dans cette gang-là d'auteurs de comédie qui ont surgi aussi dans ces années-là, on parle des années 60, un tandem très productif, Gilles Richer, qui est un auteur qui a écrit « Moi et l'autre », qui a écrit beaucoup de « Bye bye », qui a écrit des blagues pour les Couches-Tard. Il était associé avec Jean Bissonnette. Alors, ces deux larrons-là ont fait beaucoup on écrit beaucoup de blagues et de sketchs comiques qui étaient vraiment écrits ici.
Pierre-Michel, tu vas me permettre une intervention.
Bien sûr.
Parce qu'en tant que femme, j'ai une observation à faire. Ce qui est assez fascinant de voir, qu'on regarde du côté ou du burlesque, en tout cas les deux formules, ou américaine ou française, c'est qu'il y a beaucoup de femmes.
Oui.
Et on pense à La Poune, en fait, qui a dirigé le Théâtre national. On pense à Juliette Huot, Juliette Pétry, Manda Parent. On pense à Dominique, évidemment, Dominique Michel, Denise Filiatro. Alors, ce n'était pas des rôles de faire-valoir. Elles étaient vraiment au cœur de l'action et, effectivement, ne laissaient pas leur place et étaient aussi frondeuses que les gars. C'est un constat que je trouvais intéressant.
Aussi game que les gars.
Aussi game que les gars, aussi quand il y avait lieu. Parce que même le burlesque qui était boudé par l'élite, mais on peut le regarder aujourd'hui peut-être a posteriori, de voir à quel point aussi ça ébranlait les fondements même de la société québécoise. En chair, les prêtres déconseillaient la fréquentation de telles soirées. Alors, on s'aperçoit, parce qu'à ce moment-là, on n'y donnait pas une grande signification culturelle. Par ailleurs, la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui était effectivement, sans être loin d'être subversive, mais elle ébranlait quand même, elle commençait à ébranler les fondements de la société québécoise alors.
Oui, c'est très juste. Et dans les années 50-60, apparaît aussi la télévision. Et donc, Radio-Canada, pour son secteur variété dans les années 50, va aller recruter parmi les artistes de cabaret façon française, façon rive gauche de faire de l'humour et tout. Et Jacques Normand, entre autres, va se retrouver là. Et dans les années 60, quand TVA va arriver, Télémétropole, comme on disait à l'époque.
Le Canal 10.
Vont aller recruter les artistes de cabaret qui étaient plus dans la façon américaine de faire du cabaret. Vous vous souviendrez d'Olivier Guimond, de Cré-Basile, de tous ces gens-là.
Alors,
ça a été très cristallisé comme ça. Et je vous dirais que de 1962 à 1980, c'est pourquoi on a choisi d'identifier cette première vingtaine-là, c'est l'idée forte comment ça se traduit chez les comiques dans la société québécoise. C'est une sorte d'affirmation et une sorte de quête d'identité, d'affirmer qui on est, comment ça va se traduire chez les comiques. C'est de se libérer des carcans, des canevas américains et des carcans de l'humour façon variété française pour commencer à inventer notre propre humour. Alors, ça a été vraiment l'espèce de trajectoire, je dirais, à retenir de 1962 à 1980.
On va trouver du côté de Radio-Canada des émissions comme quand tu parlais des gens qui ont été recrutés du cabaret à la France, des moins l'autre.
On vous avait préparé ça.
C'est gentil.
Ça ne faisait pas trop préparer, j'espère.
Une chose qu'on peut observer dans les cabarets à la française, c'est drôle, on a juste à se remémorer le nom même, tu sais, c'était le Saint-Germain-des-Prés, le Café Montmartre. Alors, l'identification, puis avec Clairette, qui était elle-même d'origine française.
Ça, c'est Clairette.
C'est ça.
Ah, ouais. Elle ressemble un peu. Alors, il y a quelqu'un qu'on va retrouver, dont on aura un premier extrait, c'est Clémence Desrochers.
Oui, parce qu'à Saint-Germain-des-Prés, Clémence est apparue là,
le
cabaret Saint-Germain-des-Prés, où Jacques Normand animait. Il a présenté Clémence Desrochers là fin des années 50. Et c'est une qui a, bien, vous le savez, qui a rayonné après ça jusque dans les années 90 et même encore aujourd'hui.
Alors, c'est ça. Puis Clémence a vraiment donné la parole aux petites gens, donné la parole beaucoup aux femmes également. Il y a une revue très célèbre qu'elle a écrite et à laquelle elle participait qui s'appelait Les Girls. Entre autres avec Diane Dufresne qui
Diane
était là-dedans.
Dufresne, Paul Bayard.
Oui, qui a fait...
on est en 1968. Louise Latraverse.
Oui.
Et Chantal Renaud.
Chantal Renaud qui, patinons un peu, qui est la conjointe de Bernard Lantry. Alors, voilà. Alors, bien, écoutez, je vais inviter les garçons à nous faire un premier extrait de Clémence. Qui s'appelle « Les jeudis du groupe ». Alors, c'est un monologue en vers. Alors, les garçons auront le plaisir de nous
Ben oui, qui de mieux que nous pour interpréter Clémence?
Hein?
Ben
oui,
c'est bien ça. C'est quasiment pareil. C'est des connexions, on les voit de suite. Oui. La barbe, les palettes.
Pareil.
Alors, « Les jeudis du groupe ». Il peut neiger, grêler, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Armande sort le jeudi soir avec son sac de boules de quilles.
Elle s'en va rejoindre.
Ça va bien. C'était bon, ça.
Oui, c'est beau.
J'avais préparé ça aussi.
Mais elle faisait ça, Clémence.
Oui, elle faisait ça, ça va bien.
Ils l'ont coupé au montant.
Elle s'en va rejoindre le groupe qui l'attend au bowling alley. C'est sérieux, on joue pour la coupe. L'honneur du groupe est en danger.
Armande a le lancer facile. Le cul ressorti, les pieds entrés. Elle flatte la guenille humide en fixant le bout de l'allée.
Elle avance en pliant le corps. Sa boule aux mains prend la mesure. Elle lance et prend la posture tant que sa boule roule encore.
C'est un strike! Les filles sont folles. On saute, on rit, on crie « Bravo! » Puis on s'en va toutes chez Nicole pour aller jouer une game de bingo.
Il peut neiger, grêler, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Nicole reçoit le jeudi soir le groupe qui revient des quilles.
Elle a des sandwichs variés, des petits gâteaux puis des biscuits. Rien de jamais trop compliqué. Ce qui compte surtout, c'est la partie.
C'est au tour de la belle Rolande de tirer les B-43, G-29. Bingo pour Armande! Elle gagne une canne de petits pois.
Puis, on déplie la table à cartes pour jouer au poker à l'argent. On dit à quelle heure faut qu'on parte, puis on part 3 heures après le temps.
On fume, on boit, on passe, on joue, on mange des chips et des cachous en disant après chaque poignée, c'est ma dernière, ça me fait engraisser.
Il peut neiger, grêler, pleuvoir, les femmes prennent leur jeudi pour oublier rien que pour un soir que c'est plus drôle le vendredi,
ben, ni le samedi,
ni le dimanche, ni le mardi, ni le mercredi.
Vive le jeudi!
Merci les gars, vous êtes comme un petit peu en dehors de votre zone de confort, mais ça
non, marche! Non, non, ben non! Vous êtes... On faisait ça devant nos parents quand on était jeunes, Clémence.
C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Non,
alors, on poursuit. On reprend la machine, on part. Alors là, la prochaine halte, on va la faire avec les cyniques qui ont commencé à évoluer en parallèle de Clémence. Qui ont complètement un autre parcours que les gens qu'on vient d'évoquer, autant Clémence y allait avec poésie, avec douceur, avec affection pour ses personnages. Je ne dis pas que les cyniques n'en avaient pas, mais mettons que ça jouait un peu plus rough. Et c'était un peu plus violent et un peu plus rentre-dedans. Puis les cibles, on est au début de la révolution culturelle et les cibles sont claires et les boulets sont rouges, effervescents. Alors, je vais vous demander à Pierre-Michel un peu de commenter le travail dessiné.
Moi, je suis très content de la documentation qui existe sur ce groupe-là, qui a été très, très important pour ce qu'on appelle la Révolution tranquille, parce qu'il était vraiment en phase avec cet esprit de révolution et de questionner les choses qui se passaient dans la société. Et je vous renvoie à une émission qui est très bien faite, qui s'appelle « Les cyniques, méchante révolution », qui a été faite par la première chaîne. Vous allez voir, si vous voulez en savoir plus sur les cyniques, c'est une belle façon d'en savoir plus. Moi, ce que je tiens à dire, puis ce que je trouve important pour les cyniques dans les années 60, c'est que c'est un peu, et c'est pas péjoratif, c'est le produit du système d'éducation universitaire de l'Université de Montréal.
Donc, et déco classique.
On avait affaire à des comiques instruits. Et je le dis en tout respect pour les gens du burlesque, qui étaient des enfants de la balle, qui apprenaient beaucoup le métier d'artisan à artisan. Les gens des cyniques, eux, étaient à l'université, donc avaient un regard beaucoup plus large sur la société dans laquelle ils vivaient. Et ils ont compris, je crois, que l'humour était une façon de pouvoir tenir des propos sur le monde dans lequel on vit et sur le monde dans lequel il vivait et d'être sensible à ces bouleversements-là et de contribuer à je dirais, brasser la cage. Alors, c'est, je pense, ce qui est important de retenir de ce groupe-là. C'était des comiques qui se sont beaucoup alimentés à l'instruction, à un regard sociétal sur ce qui se passait. Leurs antennes étaient très, très aiguisées. Et en même temps, ils se permettaient beaucoup d'irrévérence. À cette époque-là, la façon d'envisager le politiquement correct était un peu différent. Vous allez voir peut-être dans certains extraits. Et c'est encore aujourd'hui, c'est un plaisir de réécouter les disques. Il y a des enregistrements devant public aussi où on entend les gens réellement hurler de rire.
Puis à l'époque, en fait, c'est ça, les cibles étaient extrêmement claires. Là. On parle du clergé, on parle des autorités publiques, on parle de la police, on parle des vedettes populaires, du Canal 10 et du Gros Gigaille qui étaient tellement parfaits. On parle évidemment de nos propres travers, la sexualité. En fait, on déboulonne à coups de missiles les institutions. Alors, c'est assez intéressant d'observer.
Nommer cette identité-là, les cyniques ont été extrêmement importants. D'une façon libératrice, je dirais.
Oui, c'est un rire libérateur
parce que c'est vrai que dans le burlesque, on se moquait des figures d'autorité, mais c'était toujours un curé générique, alors que les cyniques, eux, c'était le cardinal Léger. C'était, oui. Les cibles étaient plus précises, alors ils étaient, je dirais, cinglants, mais dans le bon sens du terme.
Puis, ils faisaient preuve d'un humour raffiné, mais pas toujours. Alors, c'est assez intéressant, puis évidemment, c'est facile de tirer le fil jusqu'à Rock et Belles Oreilles. Alors, autant, effectivement, d'un côté, on avait cette analyse-là qui était fine, mais autant par ailleurs, on s'amusait grassement et pour notre plus grand bonheur, évidemment. Mais ça a été extrêmement rassembleur pour nous tous qui vivions, qui étions dans cette mouvance-là, parce que j'y étais, donc de recevoir cet humour-là. Alors, encore une fois, on va demander à nos amis...
J'y étais aussi, quasiment.
Ces tablettes, oui, c'est ça.
Un extrait.
Vincent va nous faire écouter la visite de l'oratoire, parce qu'on sait qu'à l'époque où Sainte-Anne-de-Beaupré, où l'oratoire Saint-Joseph et le frère André... la vénération était incroyable avec évidemment la religion catholique qui était au cœur de nos vies. Oui. Alors voici donc, Vincent va lui faire...
Pas l'intégral, là.
Il était dans la salle. Il y en a peut-être qui vont dire, ouais, t'as de la pression. Papa en tout, je le connais pas. C'est pas vrai. Fait que c'est parti, la visite de l'oratoire. Welcome, American tourists. Bonsoir, les poissons. Good evening, freaks and monsters. Bonsoir, les infirmes. Par ici, this way, please. Follow the guide, suivez le guide. Voici l'escalier de 5000 marches avec une travée au milieu pour ceux qui montent à genoux, les bras en croix. Si vous réussissez à vous rendre en haut, c'est un miracle. Par ici, s'il vous plaît, suivez le guide. Follow the guide. Voici maintenant la crypte et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 40 ans. Watch your step. Et voici le cœur du frère André à l'âge de 5 ans. Petit gars, remets ça dans le bocal, hein? Voici maintenant le corset, les bretelles, les combinaisons du frère André. C'est discret et de bon goût. Ici, notre devise, guérison garantie ou infirmité remise. Par ici, this way, please. Non, monsieur, arrêtez de vous cogner partout. Monsieur, arrêtez de vous cogner partout, là. Va casser votre canne blanche, moi. Madame, dites donc votre petit gars d'arrêter de faire des grimaces, là. Quoi? C'est un mongol? Hein? Alors, après les miracles, quoi de mieux qu'un rafraîchissement? Donc, venez déguster nos hot dogs reliques moutarde et terminez la journée avec le breuvage favori du pape, un Pepsi.
Merci au guide, thank you to the guide. Alors, ce qui est bien fun à faire, bien, vous savez que les cyniques ont réédité les albums CD en CD récemment, puis c'est bien intéressant, évidemment, de revoir le matériel, mais c'est bien intéressant d'observer les réactions du public. Ce à quoi il rit, ce à quoi tu as un rire, là, tu sens que ça fait du bien, là, qu'il ose faire ça. C'est bien intéressant, effectivement, d'écouter puis de voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe pas. Ouais. Et pour aller un peu plus loin aussi dans l'audace des cyniques, j'ai un petit texte que je vais faire. Puis on a parlé, on a effleuré la notion de rectitude politique. Alors, dans une époque comme aujourd'hui, on pense qu'on peut tout dire. Je vais vous lire un texte, puis effectivement, c'est peut-être le texte le plus audacieux. Donc, un extrait d'un petit texte qui durait. Je dis texte, mais des fois, je dis texte. Hein?
Tu le dis beaucoup,
texte. Texte. Alors, donc, ça dure 48 secondes.
Le texte.
Et on a Serge Grenier qui fait le préambule suivant. Serge qui dit, de 1939 à 1945, Adolf Hitler, un Allemand, m'a-t-on confié, extermina 9 millions de Juifs dans les fours et les ghettos d'Auschwitz-sur-Mer et de Dachau-les-Bains. Peu avant la fin de la guerre et peu avant sa mort, voici ce que Adolf Hitler déclarait. Je sais pas si je devrais le faire. « Die Hau, Deutschel Tabaslack! Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Juifs? Ils sont pas capables de prendre une farce! » C'est... Ouh! Mais...
Et voilà.
Mais je ne sais pas, je serais curieuse, peut-être M. Laurendeau pourrait nous le dire, si à l'époque, ça a fait une vague de contestations, de controverses, mais imaginez aujourd'hui, c'est sûr, c'est inimaginable qu'on puisse, puisse faire un texte.
On va danser à la fureur, puis on reçoit des reproches. Fait que...
Joke, c'est ah, ça fait réfléchir sur la liberté d'expression, mais au passage, on souhaitait vous semer cet extrait-là. Alors là, écoutons, on poursuit. Donc, la révolution tranquille bat son plein. Et il y a un événement, il y a un spectacle qui est très marquant pour l'époque. On est en 68, donc on parle de Lost Show, évidemment. Et Il y a un dénommé Yvon Deschamps qui fait partie du groupe, qui était précédemment un batteur pour Claude Léveillé, entre autres, donc qui était un musicien et qui, pour la première fois, j'allais dire, prend la parole et non pas les baguettes. Et c'est un événement. Et l'ensemble du spectacle, évidemment, avec Robert Charlebois et Louise Forestier, Mouffe, c'est un événement spectaculaire au sein de la vie du Québec. Alors, mais c'est principalement ce qui nous concerne, la naissance d'Yvon Deschamps. Et donc, commentaire, M. Tremblay?
En fait, en 68, on est aussi en France, à mai 68, il y a aussi l'avènement du féminisme, il y a aussi la libération sexuelle.
Oh,
il y a
la
aussi
libération le... sexuelle. Que de beaux souvenirs.
Oui.
Mais ce sont des souvenirs.
On va prendre un break. Il y a quelque chose à faire dans les coulisses.
Puis je dis des souvenirs, mais.
En
voilà.
Fait, toute cette effervescence-là dont Louis se rappelle, elle était partout en Occident, donc le Québec aussi vibrait à ça. Et l'hostie show avec Yvon Deschamps, avec Robert Charlebois, avec Louise Forestier, avec une joyeuse gang, Mouffe et tout, vient aussi à sa façon brasser la cage. Et c'est à l'intérieur de ce spectacle-là qu'Yvon Deschamps va se découvrir une vocation d'humoriste avec un numéro qui est devenu un classique, « Les unions que ça donne ». Il va le faire à l'intérieur de l'hostie show la première fois avec Robert Charlebois qui l'accompagne à la guitare. Et c'est là qu'il a commencé à dire, ben, je peux faire ça, moi, écrire des monologues et raconter des histoires.
Il y a 32 ans à ce moment-là.
Et les gens rigolent.
C'est merveilleux.
Alors, c'est à partir de là qu'il a commencé, qu'il s'est découvert, si on peut dire, sa vocation d'auteur de comédie. Parce que, puis on a un bel exemple avec ce que Dominique Champagne et Benoît Brière ont fait avec Le boss est mort. Yvon Deschamps souhaitait théâtraliser un peu son travail, parce que quand on lit attentivement Yvon Deschamps, le regard des cyniques était beaucoup sur les figures de la société, quoique il ratissait large, mais le regard d'Yvon Deschamps se penche beaucoup aussi sur, on va dire, la classe ouvrière, les gens qui travaillent pour des boss, les gens qui vont être nés pour un petit pain.
Ah oui, il va nous faire à partir des pires conditions humaines.
Oui,
qui a beaucoup d'émotions également. Là,
beaucoup il va beaucoup évoquer la pauvreté, la misère et tout. Mais lorsqu'on lit ces textes, c'est fascinant, c'est des monologues. Il y a énormément de personnages dans ces monologues. C'est toujours habité de plein de gens. C'est toujours habité de... Il y a beaucoup de personnages qui interviennent, même si c'est des monologues. Il fait exister le peuple. C'est comme ça que j'aime parler d'Yvon Deschamps, parce que dans ses textes, c'est plein de monde.
Puis on pense automatiquement, par ailleurs, à Michel Tremblay. Ça me fait penser à ça comme descriptif.
Parce qu'effectivement, dans ces années-là, il y a
comme
les belles-sœurs
aussi. Comme Vic évoque
avec
ces personnages-là, effectivement, ça fait partie. Puis il y a évidemment toute la montée du nationalisme, l'appropriation explicite de notre identité. On la nomme, on veut un pays. Alors ça, c'est une vague de fond qui est fondamentale. Et tous les artistes vont contribuer à l'expression de cette volonté-là, identitaire. Vous savez, là, c'est fondamental de l'époque. Et on vibrait tous. Yvon Deschamps, qui vient faire des tours des fois à l'école, disait... À la fois parce qu'on dit il y a moins de contenu aujourd'hui, les gens sont moins engagés, mais on était tous portés. C'était vraiment une vague, un courant de fond qui était incontournable et qui nous transportait littéralement.
On peut presque parler de il y a une notion en histoire qui s'appelle le déterminisme historique, c'est-à-dire qu'il y avait une nécessité pour probablement tous les artistes de nommer et de dire cette identité-là aussi à cette époque-là.
Puis on observe aussi, bon, c'est les boîtes à chansons là, qui arrivent comme lieu de diffusion, mais que la communauté des chansonniers, des humoristes, il n'y a pas de schisme. Ils sont tous ensemble. Alors, on va aller dans les boîtes à chansons, ça peut être Vigneau une semaine, Jean-Guy Moreau. Alors, on a vraiment une série. Il y a Sol, il y a Clémence, évidemment, qui poursuit, Raymond Lévesque de la même façon. Puis on va accélérer un petit peu. Alors, on va demander à nos... Oh, c'est Vincent encore qui va...
D'accord! Bien, voyons donc!
Fatiguant! qui va nous faire un bout de ce fabuleux monologue, Les unions Cossatones.
Portez attention à la précision visuelle Vous allez voir comment c'est un visuel dans son écriture.
Des grandes dents, tout habillé en brun. Un beau visuel. Bon, fait que c'est parti. Les unions, qu'est-ce que ça donne? Oh, hey! Dimanche matin, j'étais sur la galerie, il était à peu près 11h30. Moi et le petit était là, puis on se berçait. Oh, le petit, il se berçait plus, hein? Il s'était bercé, mais là, il était malade. D'un coup, que c'est joué arrivé sur le bout de la rue, hey, le gros Plymouth 56 saumon avec le boss dedans. Il donne trois petits coups de klaxon, il parque son char à la porte, il débarque. Hey, le monde était sorti de ses galeries. La femme d'à côté a dit, il a bien la smart, cet homme-là. Ben, je pense bien, c'est mon boss. Hey, il avait mis ses bermudas écossais. Il avait la chemise pis les bas qui allaient avec le char. Il envoie les petits morveux qu'il y avait autour. Il s'approche de la galerie pis il dit, « T'en viens-tu à la campagne avec moi? » »« Ah ben moi, je perds pas de temps. Je te prends le petit, je te le rentre dans la maison, je barre la porte pour qu'il arrive à rien pis envoie dans le char. » Fait que le boss, il dit, « Mets des gazettes sur le siège d'en avant pour pas le salir hein, pis viens t'asseoir avec moi. » Fait que... Je prends une gazette qui était sur le siège en arrière, je les mets en avant pour pas le saler, puis on part tous les deux. Hey, comme des hommes, hey. J'avais jamais vu ça, moi, un char de même. Hey, il y avait tout. Le gros moteur, la grosse transmission, la grosse radio hi-fi, le gros miroir de côté, la petite boîte de Kleenex, les sièges en cuirette blanc avec le plastique transparent dessus. On arrive à son camp à Pine Beach. Je te regarde, la bébelle. Hey, ça, c'était pas un camp, c'était un château. Pas de farce, hey! La plus grosse maison en pierre naturelle de tous les couleurs que j'avais jamais vue de ma vie. Avec les auvents en plastique, les fenêtres d'aluminium, une porte d'aluminium avec le flamant dedans, une grande pelouse, là. Pas d'arbres là-dessus, hein? Plein de petits animaux en plywood découpés à main, tout autour de la pelouse. Des belles petites roches blanches, toutes la même grosseur. Il m'amène sur le côté de la maison, il me montre sa nouvelle tondeuse, une bébelle grande de même. Il me montre sa tondeuse et il me dit, « Tu sais, si ça te tente, tu peux l'essayer. Hein? » Ben, regarde-moi, je ne suis pas rentré tout de suite parce qu'il y avait bien du monde. Hein? Il était bien smart, il m'a dit, « Ah ouais, essaye-la. » Fait que c'est sûr que sur le coup, j'ai posé, tu sais, la gêne. Hein? Mais après ça, je me suis dit à moi-même, s'il me l'a dit, c'est parce qu'il voulait. S'il n'aurait pas voulu, il ne me l'aurait pas dit. Fait que j'ai fait partir la tondeuse, j'ai tondu un petit bout de gazon. Finalement, ben, j'ai tondu à toute la pelouse. Mais j'ai ramassé ça. Hey, ben non, hey, j'ai tout ramassé ça. J'ai mis ça dans un sac de plastique qu'il y avait à côté de la tondeuse. Quand le boss est sorti, là, vers 4h30, j'avais tellement bien fait ça que c'est aperçu de rien. parce qu'il est sorti, hein? Hey, ce gars-là, là, il a laissé tous ses chums en dedans pour venir prendre une petite bière avec moi dehors. Ouais, ouais. Il me la donne, il dit, tu m'excuseras, il m'en restait rien qu'une de frette. Hey, c'était à la fin de l'après-midi, puis on était tendus, moi et le boss, puis on prenait notre petite bière tranquille. Lui, il prenait sa petite bière frette, moi, je prenais ma petite bière chaude. Hey, j'avais jamais été bien comme ça, moi, dans la vie, hein. J'avais comme quelque chose dans l'estomac. Pour moi, la petite bière chaude, ça me fait pas, moi. Fait que d'un coup, le boss me donne 2$ puis il dit, « Ben, tu vas être obligé de t'en aller chez vous en autobus. Mes amis restent à souper, je peux pas aller te reconduire. » Ah, ben, j'ai dit, « Hey, boss, il y a pas de dérangement, mais avant de partir, je voudrais vous dire comment. » Il dit, « T'as pas le temps, voilà ton autobus. » Fait que je pars en courant, mais avant d'embarquer dans l'autobus, par exemple, je me retourne puis je dis, « Lâche un roi. » J'ai dit, « Hey, boss, les unions, là. » Qu'est-ce que ça donne?
C'est important de souligner le courage de l'humour du Mont-des-Champs. J'ai écrit 100 fois sur le métier, remettez la prise de risque, parce qu'on pourrait passer tellement de temps sur lui et à quel point. Puis il y a eu des choses, ça a été difficile. Souvent, il a été mal compris, il a été mal décodé. Mais il s'est réactualisé, puis encore aujourd'hui, c'est un grand commentateur de notre société. C'est incroyable qu'il le fasse depuis presque, c'est ça, 45 ans aujourd'hui. Et il nous a suivis, puis continue à être le miroir de ce que nous sommes. Clémence, de la même façon, c'est fascinant. Il faut qu'on accélère. Désolée, encore là, on va continuer.
Tu as dit trop souvent le mot texte.
Oui, c'est ça. Alors, bien là, on est rendu dans les années 80, la culture qui s'organise, on voit la naissance d'associations comme la DIS, la SODEC, et c'est l'arrivée l'éclosion de, entre autres, de l'absurde. On pense et un peu du stand-up avec l'influence américaine. On pense évidemment à Pierre-Michel, à Paul et Paul.
Oui, des plus jeunes, des plus fous à la fin des années 70, début 80. De 80 à 2000, effectivement, comme Louise l'a dit, la culture s'organise. Mais comment ça se traduit aussi, c'est que là, on a plus envie d'explorer le côté absurde. Alors, il y a Paul et Paul, il y a les carcasses.
Il y a les frères Brosse.
Et dans ces années-là, il y a trois phénomènes majeurs dans le monde de l'humour. Il va y avoir le Festival Juste pour rire qui est fondé.
En 82.
Il va y avoir la Ligue nationale d'improvisation qui va avoir été fondée en 77, mais qui va être diffusée par Télé-Québec au début des années 80, qui va voir la naissance de plein de ligues d'improvisation dans les cégeps et qui va être le lieu où des vocations de comiques vont éclore. Et il va y avoir les Lundis des AA, dont Mme Richer a été une participante active et engagée.
Oui, oui, il m'a engagée, oui, effectivement. Ben, écoutez, je vais prendre quelques minutes pour vous parler encore là de l'effervescence. Et Dieu sait que le succès, je me souviens encore, le premier soir des Lundis des AA, c'est le 21 février 1983. J'y présentais moi-même un numéro avec un personnage qui s'appelait Switch. Et jamais les garçons, en l'occurrence Claude Meunier, Digne Dong, Claude Meunier, Serge Thériault, pensaient que ça pouvait fonctionner. Là, ça a été annoncé, évidemment. Claude Meunier était allé aux États-Unis, avait vu des clubs de comédie. Il s'est dit, on va faire ça ici. Mais par ailleurs, c'est fascinant de voir que leur personnage n'était pas vraiment en lien avec le stand-up qu'on commençait à connaître de plus en plus ici. Il était plus inspiré des Monty Python, des bas. Puis de leur propre absurde à eux, évidemment. Mais c'est une grande surprise de voir sur la rue Avenue du Parc au Club Soda à l'époque, puis ça faisait le coin sur Saint-Viateur, le Club Soda, là, écoutez, il y avait 780 personnes le premier soir, et c'était fou parce que eux-mêmes, d'où ma participation, ont été débordés par l'organisation, et ça s'organisait souvent, on annonçait à la fin d'un show, ils annonçaient « la semaine prochaine, on a un tel », et des surprises, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais ce qui était fascinant, c'est que finalement, c'est comme si on avait installé une porte, et sans le savoir, et il y avait un public d'un côté, et de l'autre côté, il y avait plein d'humoristes qui, eux, circulaient à travers la province, mais qui n'étaient pas connus à Montréal. Ils avaient un line-up d'humoristes.
Ça a agi comme catalyseur pour tous ces gens-là qui faisaient de l'humour un peu dans leur coin. Tout d'un coup, il y avait un lieu qui rassemblait ces
absolument.
Gens-là.
Absolument. Puis il y a des gens qu'on sollicitait qui étaient des comédiens qu'on connaissait, les Rémi Girard, Marc Messier, Denis Bouchard, mais, par ailleurs, qui, eux, étaient formés au théâtre, mais il y avait des gens, ceux qu'on a découverts, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. On parle évidemment de Daniel Lemire, qui est toute une révélation. C'est surtout manifesté dans un premier temps par ses personnages. On pense à Oncle Georges, à Yvon Travailler, à son crooner, et qui éventuellement va développer, lui, des routines plus de commentaires sociaux à travers ses stand-up. On pense à Pierre Verville, qui est encore présent aujourd'hui, qui est un imitateur exceptionnel qu'on entend beaucoup à la radio de Radio-Canada. On pense à Michel Barrette, qui débarquait du Saguenay, André-Philippe Gagnon. Il y a Normand Brathwaite aussi, qui lui aussi venait du théâtre, mais qui s'est exprimé là, qui est devenu animateur par la suite. Le groupe Sanguin, Rock et Belles Oreilles, qu'on a accueilli dans un premier temps, je me souviens très bien, on a accueilli Marie-Lise Pilote avec sa sœur jumelle. Un à un, on avait Bruno Landry. Et éventuellement, on a connu les groupes entiers, mais qu'on a reçus individuellement dans un premier temps. Alors, on avait vraiment l'impression là, qu'il y avait un nouveau profil d'humoriste qui émergeait, et on était nous-mêmes finalement renversés par l'abondance, en fait, de comiques qui ne demandaient qu'un public, finalement, ou en fait un public plus large. La télévision, évidemment, a favorisé la popularité de ces comiques. Alors, écoutez, on va demander à nos Denis, cette fois.
Oui.
Alors, vous savez probablement que La Petite Vie est née au Lundi des AA. Et que pour que ce soit facile, d'ailleurs, on ne peut pas avoir un lit, si on pense une scène de lit avec le fameux couple de Popa et Maman. Sur la scène, on n'avait plus de moyens. Alors, ce qui était plus simple, c'est que les gars restent debout, évidemment, et c'est ainsi que le lit vertical est né. Alors, allez-y, les gars.
Il faut savoir qui fait qui. Comme j'ai une barbe, je vais faire un moment.
Ben oui, c'est ça. Plus simple de même. C'est une scène d'un épisode de La Petite Vie qui s'appelle La pierre au foie, partie 1.
Oui.
Moment!
Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, là?
Je dors-tu, moi, là, là?
Non, tu dors pas, là. Et que t'es fatiguant avec ça, là.
T'es sûr que je dors pas, là? D'un coup que c'est un rêve que je fais, là. D'un coup que je rêve que je dors pas, moi, là.
Parce qu'il y en a fait, il est sûr, c'est que moi, je dors pas, là.
T'es sûr? D'un coup qu'on fait le même rêve, maman?
Non, mais ça n'a pas d'allure, là. Je pense que ça fait 5 nuits que t'as pas dormi, là.
En tout cas, non, mais je dormirai pas non plus parce qu'il y en a assez du monde qui meurt pendant qu'ils dorment. Moi, en tout cas, ils mourront pas.
Ah, mais qui ça?
Laisse faire, là. J'aime autant pas nommer de nom.
Oui, t'es en train de virer fou, toi, là.
Ben, j'aime autant mourir fou que mourir endormi, tu seras, hein?
Ben, comme c'est là, c'est moi qui vais venir folle, là.
Ah oui? Veux-tu un petit café pour te calmer, maman?
Non, merci jamais quand je dors.
OK, comme tu veux. Papa prend une gorgée de café et lit ses mots croisés. Hip, monsieur, bon, hip, baptême, moment!
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi, d'après toi? Écoute bien, là, c'est monnaie japonais, toilette, ça finit en EN.
Sen?
Ben non, ça commence par Y.
Innocent.
Pas trois syllabes, toilette, j'ai dit. Hey, maman, c'est bizarre, ce mot croisé-là. Écoute ça. Femelle du cheval. Tu sais quoi, toi?
Ben, la jument.
Non, ça ressemble, par exemple, mument. M-U-M-E-N-T.
Une mument.
Ben oui, une mument, comme un moment, mument. Tiens, va voir ta mument. Ah ouais.
Hey, je pense que c'est dû pour un autre café, toi,
oui,
là.
Oui.
Téléphone. Dring!
Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Ben, c'est juste le téléphone.
Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a, ça n'est fort de même?
Résidence du Gros Nerf, bonjour. Oui, c'est Jacqueline. Oui, je te le passe. Fais pas le saut, c'est pas Gaulle.
Eh mon Dieu! Oui, allô? Coudon, es-tu en train de virer fou, toi, là? Qu'est-ce qui te prend, ça n'est fort de même? Ben oui, mais tu peux venir faire un tour. Pas là. Tu vois bien que je suis là, hein? Ben certain que je t'attends, je partirai pas en Afrique, certain, moi, là. Coudon, il est bien ses nerfs, lui, bâtard!
Ben oui, c'est fatiguant, hein?
Mais ça! Hein?
Hey.
Hey, merci les garçons. Ça devait vous faire plaisir de faire ça. Ça.
Ah oui.
Vous pouvez nous dire un petit mot sur Claude Meunier de ça.
Ah bien évidemment, c'est sûr que ça a été l'influence totale. Nous autres, Claude Meunier, regarde, c'est sûr que ça a joué dans la mécanique des personnages, dans les couches des profondeurs qu'il y a dans Ding et Dong, en au-delà de juste le duo de bouffons complètement absurde. Là, je pense qu'il y a, ouais. Il y a le lien entre les deux personnages, le jeu, le rythme aussi. Puis d'aussi loin qu'on s'en rappelle, nous autres, ça fait 27 ans qu'on se connaît. Je pense qu'à l'âge de 11 ans, on faisait des sketchs du lundi DA dans le sous-sol chez nous, qu'on connaissait les textes par cœur. Ça a été un coup de foudre.
Oui, pour bien du monde, ils s'attendaient plus à Paul et Paul, nous autres, que Jean Dumont. Ouais. On fait bien la gauche éclatée, nous disaient, c'est Paul et Paul. Puis non, c'est beaucoup plus Ding et Dong qui nous a touchés. Je pense que c'est RBO, Plume la Traverse, qui est venu teinter notre côté plus rough que Ding et Dong.
Plume la Traverse.
Oui, du côté Claude Gauvreau aussi, avec du langage exploréen, où ce qu'on a ri de lui.
Hein? Voilà. Donc, c'est non, nous c'est autres. Pas vrai. Mais oui, mais Claude, ben, oui, c'est l'influence directe au Denis.
C'est le fun d'avoir ces soleniens, comme vous dites, avec l'absurde, mais quand même, c'est un miroir déformant, soit de ce qu'on est. Si on regarde la famille, la petite vie et d'autres personnages, la famille dysfonctionnelle.
La distinction entre l'humour absurde et le non-sens. Nous autres, on faisait beaucoup plus dans le non-sens au début des Denis de Relais, où il n'y avait aucune convention, qu'on sautait du coq à l'âne, que tu cherchais à joke, tu n'appognais pas, puis c'était ça qui était
c'était
drôle.
C'était ça, à joke.
Il n'y en avait
c'était
pas.
Un peu ça. Puis finalement, en vieillissant, on va plus vers l'absurde, où ce qu'on traite un sujet du domaine du commun qui va chercher plusieurs personnes, mais qu'on le traite avec un angle absurde.
Bravo, j'aime beaucoup ça, ce que tu fais.
Mais moi aussi.
Je suis un fan.
Alors, on n'a pas que salué l'œuvre monumentale de Claude puis l'influence que ça a eue, évidemment, par la suite. Alors, on doit poursuivre. Et puis là, ben, on se retrouve après les lundis DA qui, finalement, ça n'a pas été très long. Hein. C'était de 83 à 85 qu'il y a eu des tournées de spectacles qui ont été faites. Mais ça a été relativement court quand on pense à l'influence. Puis de toute façon, ce que Claude Meunier, c'est l'œuvre qui s'est poursuivie, donc avec la petite vie qui était née, les personnages qui étaient nés dans le cadre des lundis DA, et les Lemire, Verville, qui vont de leur côté entreprendre, avoir leur show solo et qui vont faire partie du paysage à partir de ce moment-là, puis qui y sont encore. Alors, après les lundis DA, il y a eu les lundis Juste pour rire, que j'ai eu le plaisir aussi, sur lesquels j'ai travaillé. Et là, c'est quand on parlait de nouveaux profils d'humoristes, qui ont été, qui ont pris connaissance de leur pouvoir comique dans le cadre souvent du travail d'improvisation, on pense à ce moment-là, Michel Courtemanche, qu'on retrouve dans les années, là, on est rendu 186-87. On pense à Lise Dion, à Jesse Lauzon, les Bizarroïdes. Vous connaissez Martin Petit, qui faisait partie de ce groupe-là aussi, qui est encore très présent aujourd'hui. Un autre Bizarroïde qui est Ken Scott, qui lui est scénariste, qui a écrit La Grande Séduction, qui a écrit Starbuck. Alors, c'est des gens donc qu'on a vu naître à cette période-là, là, dans le cadre des lundis Juste pour rire. Et à la fin de cette décennie-là, des années 80, on a pu percevoir un désir de formation parce que vous auriez fait de la flûte de pan, vous auriez trouvé des ressources, quelqu'un pour vous guider. Mais effectivement, quand on passait des auditions pour les soirées d'humour, c'était incroyable. Les gens nous disaient, à part le commentaire de quelques minutes que vous nous faites, il n'y a pas de lieu où on peut apprendre notre métier. Et les humoristes, la plupart du temps, c'est un métier de soliste. On se retrouve tout seul, essayer d'écrire, de mieux interpréter. Alors, c'est là que l'idée de fonder une école qui formerait des humoristes et des auteurs est née. Je dis souvent, c'est 10 minutes. Oh, 10 minutes. Je dis souvent, ce n'est pas une idée saugrenue. C'est vraiment un besoin qu'on a pu percevoir et j'ai eu le bonheur d'être mandatée de mettre sur cette école sur pied, qui était un grand défi parce qu'évidemment, aucun modèle n'existait, mais encore là, de faire la démonstration de la légitimité, de la pertinence d'une telle école, avec la perception qu'on avait que l'humour, c'est facile, c'est une seconde nature, il n'y a rien qui s'apprend là-dedans. Alors, il a fallu expérimenter par essai et erreur dans un premier temps quels sont les cours pour former ces gens-là, mais et aussi à l'extérieur, de pouvoir faire cette démonstration-là, de le faire accepter, d'être éventuellement soutenu. Puis aujourd'hui, on est heureux. Je suis heureuse de pouvoir vous dire qu'on est soutenu par le ministère de la Culture au Québec et par Patrimoine Canada. Alors, c'est un profil et évidemment, la formation a beaucoup évolué. Aujourd'hui, j'aime décrire l'humoriste comme un chroniqueur de son temps. Puis je pense que c'est important d'inclure dans le mandat d'une école de favoriser évidemment la plus grande acquisition d'efficacité comique, mais également de favoriser une compréhension du monde environnant. Alors maintenant, à l'école, il y a des cours de sciences politiques. La langue française aussi est très importante. Il y a beaucoup de commentaires langagiers qui se font. Alors, les objectifs se sont énormément diversifiés au fil des ans. Puis aujourd'hui, bien, on est heureux de voir aussi la gang de comiques qui sont issus de l'école. On pense à Jean-Marc Parent, Patrick Huard, Mario Jean, Martin Matt, Louis-José Houd, Laurent Paquin, Sylvain Larocque, Louis Morissette, la gang C'est ça des mecs, les Denis, Mike Ward, vous pouvez voir qu'il y en a, Jean-François Mercier, il y en a à peu près de toutes les tendances sont représentées. Excusez-moi, je vais prendre un petit moment parce que là, je me suis emportée parce que je parle de l'école. Alors c'est ça, des années 90, donc c'est effectivement, on est dans une autre étape.
Oui, dans cette vingtaine-là, en fait, il y a eu les années 80, puis dans les années 90, ça continue à se spécialiser l'industrie de l'humour, mais toutes les le terme entreprise culturelle commence à s'implanter. Et dans le contenu, on se rapproche, on quitte un peu l'absurde, on se rapproche de la sphère du privé. Les humoristes commencent beaucoup à parler de leur quotidien, de leur blonde, de ce qu'ils vivent, commencent à se rapprocher de leur vécu. Et c'est une tendance qui est assez forte, qu'on commence à quitter là, vers le milieu des années 2000. Là,
mais là, il y a des gens qu'on est en train de sauter, un monument de l'humour québécois avec Rock et Belles Oreilles.
C'est ça.
Qui était moins dans ce
milieu. Il y a les gens qui font de l'humour en solo. Dans les années 70, on a oublié de mentionner quand même, il y avait Jean-Guy Moreau, il y avait Sol, ouais, il y avait ces gens-là qui étaient les maîtres de l'humour en solo. Dans les années 90, tous les gens que Louise a nommés, mais étonnamment aussi un groupe qui vient de l'université, donc qui a vraiment une correspondance avec les cyniques aussi dans les années 60, c'est Rock et Belles Oreilles qui, eux, sont les produits de l'UQAM, sont très multimédia, commencent à la radio et sont à l'aise avec la chanson, la scène, la télé, la radio. Peu importe le média, ils sont vraiment le produit des années 90 de leur temps.
Alors, j'ai réalisé aujourd'hui que la vieille photo qu'on avait de Rock et Belles Oreilles, bien, Yves n'est pas là. En fait, mais il y a autant qu'il y a un espace où on peut l'imaginer.
Il était trop mince.
Les garçons, je vous invite à vos micros.
On a besoin.
Et on va y aller. On va y aller avec un extrait de Bonjour la police.
Ah oui.
Et Pierre-Michel va faire le chien.
Tu es content?
On y a trouvé une place, puis c'est talent d'acteur. Ouais. Okay.
Fait que... Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Eh bien, cette semaine à Bonjour la police, la chronique invitée avec un invité, le sergent Bigra. Eh bien, bonjour la police!
Bonjour la police!
Sergent, votre chien répond au nom de Rex.
C'est un chien, un magnifique canin de 3 ans qui répond effectivement au nom de Rex.
Bien, bonjour Rex!
Bonjour!
Talent d'acteur ici. Bon, sergent, laissons de côté ce chien berger et revenons plutôt à nos moutons. Berger, mouton, c'est un jeu de mots. Hein?
C'est cela.
Oui, oui, oui. Laissez-moi donc vous poser une question intimiste.
Intimiste.
Dans le sens de « je vous intime de répondre ».
Ah, à vos ordres.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merveilleux instrument que vous avez le long de la jambe?
Ah, bébé, c'est un...
À l'extérieur de la culotte, je veux dire, hein?
Oui. Eh bien, certains appellent ça un rubber au pipe wrench, un matraque. Moi, personnellement, j'appelle ça Julie.
Eh bien, bonjour, Julie.
Bonjour, la police!
Bon, ben, mon gros brun trempé d'un pinot est arrivé. C'est donc tout pour bonjour, la police. Bonjour, la police. Bonjour, la police!
Ah oui, bonjour, la police. Bonjour, Rex.
Bonjour.
Cœur, bravo. Bravo. Touche à mieux. Merci.
Ah, alors, comme Pierre-Michel le soulignait, c'est en ligne. On ne peut plus direct avec les cyniques. Puis aujourd'hui, c'est, je le vois là, avec les jeunes, l'influence monumentale de Rocky Belles-Oreilles, évidemment. Puis en fait, peut-être qu'elle est si monumentale parce qu'il nous rappelle régulièrement. Là, il nous rappelle à leur mémoire. C'est ça, il se rappelle à notre mémoire plutôt régulièrement. Mais c'est clair que c'est un autre pilier de l'humour québécois. Je le dis, et ça m'a aussi donné un fils, by the way. Bien, ça, c'est tellement pas pertinent.
Bruno, alors... c'est ton fils?
C'est ton fils, Bruno, oui. Oui.
Je savais pas ça.
Ah, oui. Encore bien, on continue, bon, et même avec Rock et Belles Oreilles, on va falloir filer, il nous reste 5 minutes, avec Rock et Belles Oreilles, la controverse, par rapport à ce qu'ils font, que ce soit dans l'incarnation de Jésus et dans plein d'autres personnages qu'ils vont faire, régulièrement, la controverse sévit, que ce soit à droite parole, les discussions se font sur les limites de l'humour et finalement, on pense des fois que c'est relativement récent, mais en fait, la controverse, effectivement, apparaît de façon très récurrente et encore aujourd'hui, il y a des flambées et en tout cas, c'était, à l'époque de Rocky Belles Oreilles, c'était particulièrement important de les réactions. Puis le milieu intellectuel d'un côté, les comiques de l'autre, la pauvreté de la langue. Je ne dis pas la ritournelle, mais effectivement, ce sont des accusations qui sont portées envers les comiques et qui sont souvent justifiées. Mais c'est peut-être plus que le débat s'opère dans une mauvaise foi au lieu de se faire, je pense, dans une écoute et de fournir un éclairage qui nous fait avancer et qui nous fait réfléchir. Alors, c'était mon petit commentaire. On va parler aussi ça, quand on parle de l'absurde ou on parle de la sphère privée, souvent, le commentaire qu'on entend, c'est que ça arrive effectivement parce qu'on observe une morosité qui est souvent liée, selon les analystes, à la morosité post-référendaire. Alors, c'est là aussi qu'évidemment, le contenu se décollectivise, si vous permettez... Ce néologisme. Et effectivement, on arrive à l'époque où c'est vraiment là, qu'on regarde Patrick Huard ou certains contenus plus stand-up où on parle des choses et des observations qui sont autour de nous et qui ne commandent pas en fait un projet de société. Alors, ça caractérise plutôt les années 2000. Et on va conclure bientôt en disant que si on regarde le portrait actuel, on a nettement plus que l'impression, en fait, toutes les tendances sont manifestes. Alors souvent, on nous demande quelles sont les grandes tendances, mais c'est incroyable comment, que ce soit d'un côté L'absurde est très fort. L'humour vexatoire, appelons-le ainsi. On pense à des Mike Ward, Jean-François Mercier, François Havard avec les Bougons, une Cathy Gauthier. Évidemment, dans l'humour absurde, on pense à Jean-Thomas Jobin. On pense au Chick and Swell, qui explore beaucoup la forme également et la vidéo, le multimédia. On pense au Denis Drolet. Et d'ailleurs, l'humour plus commentaire social aussi, on pense aux apartistes, on pense à Guy Nantel, à la télévision, on a des émissions de télé, on peut se référer à Infoman. La fin du monde est à 7 heures, on pense à Infoman, on pense à la FLAC. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouvel engagement qu'on peut entendre, percevoir des jeunes humoristes. Évidemment, la grande porte d'entrée, c'est l'environnement. Mais évidemment, le projet social qui va nous rallier n'est pas évident, ce qui fait en sorte effectivement que les gens ne vont pas se regrouper parmi les artistes, ou en tout cas plus spécifiquement parmi les humoristes, pour l'exprimer d'une voix commune.
Ce qu'on remarque aussi dans les années 2000 à aujourd'hui, c'est que dans les années 60, il y avait une sorte de quête d'identité. Et elle a été affirmée, elle a été reconnue, elle a été nommée. Et dans les années 2000, on dirait que ça recommence. On se questionne à nouveau sur notre identité. Il y a les Québécois qui arrivent de tout pays, qui font une contribution à la société québécoise et qui, de plus en plus, investissent le champ de l'humour aussi. Je pense au Couscous Comedy Club, je pense à
Nabila Ben Youssef,
Rachid Badouri. Alors, ils contribuent aussi à cette nouvelle grande quête d'identité-là, je dirais. Il y a comme une boucle intéressante, si on part des 50 ans de 1962, où il y avait ce besoin d'affirmer une identité. On dirait qu'on revient à ça, mais avec des nouveaux paramètres, avec des nouveaux questionnements.
Oui, on est à redéfinir les paramètres. Puis c'est heureux, moi, en tout cas, je suis très heureuse dans le cadre de l'École de l'humour de voir qu'enfin des gens issus de communautés culturelles fréquentent l'école, puis éventuellement vont s'affirmer sur la scène culturelle. Et il y a cette prise de parole-là qui est maintenant enfin représentative de la nouvelle démographie du Québec. Mmh. Ça, c'est extrêmement précieux. Puis l'autre élément qui est fondamental aussi, c'est le web, évidemment, les nouveaux lieux de création, de diffusion, qui font en sorte, qui redessinent un peu l'espèce de paradigme de base où les gens n'ont plus en tête nécessairement de « je vais avoir mon one-man show ». C'est d'autres dynamiques qui vont réunir les gens dans des projets web, dans une intégration vidéo. Alors, on est en train vraiment de redessiner. Les gens vont penser télé, concept télé. Alors, les frontières entre les différents médias s'estompent, puis les créateurs issus du milieu de l'humour vont effectivement se retrouver dans différents médias, puis être les auteurs. On pense à Louis Morissette, entre autres, qui est un comique, mais qui a écrit une série, une comédie dramatique, CA. Alors, il y a vraiment de nouveaux espaces, de nouvelles plateformes pour s'exprimer et qui vont répondre aussi à des nouveaux modes d'expression. Alors, c'est en complète expansion. Et la diversité est totale, est incroyable. Alors, voilà. Bien, écoutez, on va clore ici. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce tour de voiture, de machine ensemble sur la route de l'humour. Puis pour terminer, moi, je vais demander au Denis, parce que la chanson humoristique aussi, on pourrait refaire le survol encore avec les Clémence, les Yvon Deschamps, avec les Cyniques, avec RBO, on repense au Girola. La chanson humoristique aussi a toujours été très, très, très présente et chérie par nos humoristes. Alors, nos chers Denis, nos chers hommes bruns, vous voyez, ils sont chics, hein? Vous voyez en primeur ce soir leur nouveau costume. C'est vraiment leur nouveau costume de scène.
Bon, ça mérite une main d'applaudissement.
Ah oui.
Il était temps.
Il était temps. On a des beaux garçons amincis également. Alors, nos chers Denis vont nous faire...
Oh,
en concluant,
oui, je fais attention.
Oui. En concluant, ben ils vont nous interpréter un beau petit medley de chansons humoristiques. Merci beaucoup.
Bonjour, Huguette. N'oublie pas que je suis prête. Et s'il te fait de la peine, rappelle-toi ce poème. Oh chéri, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humecté de joies et de désirs. Oh chéri, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te protégerai de la brise. Il aimait tabocher les gars du quartier. Son nom s'était mis au marché. À 12 ans fort comme un homme, il n'avait peur de personne. Touche pas à mes hauts penchés. Son père avait dit tu seras barbier, mais il n'aimait pas ce métier. Le voici donc en colère, jetant le client par terre. Choque-toi pas mes hauts penchés. Choque-toi pas mes hauts penchés. Et que c'est donc belle, une fille, et que c'est donc belle. À côté d'elle, un gars, ça a l'air d'être fait pour tenir une pelle. Et que c'est donc belle, une fille, et que c'est donc belle. Pourquoi faut-il que je me trouve des talents d'épais quand je me trouve près d'elle? Ça a commencé à l'école, dans ma classe, il y avait une petite bolle. Son prénom, c'était Carole, et je l'avais remarqué en étole. J'en étais fou. Jusqu'au jour où, à récréation, on mangeait notre collation. Elle a toussé un petit brin, puis elle a vomi toutes ses raisins. Oh là, je l'aimais moins. Mais que c'est donc belle, fille, et que c'est donc belle. C'est pour elle que furent inventés les dentiers.
Dentelle.
Et que c'est donc belle, une fille, et que c'est donc belle. Pourquoi faut-il que mon quotient baisse à 12 quand je me trouve près d'elle? Oh chérie, chérie, quand je t'ai rencontrée, j'ai tout de suite eu envie de t'aimer. Mais je ne pouvais pas me douter, yeah, yeah, qu'un jour tu allais me donner le feu sauvage.
Le feu sauvage,
le feu sauvage de l'amour.
Le feu.
La maladie du baiser, yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour.
Le feu sauvage.
Puis un jour je n'ai pas pu résister et je t'ai demandé de m'embrasser. Tout de suite tu t'es exécuté,
yeah, yeah. Et tu m'as transmis par un baiser. Le feu sauvage.
Le feu sauvage. Le feu sauvage de l'amour.
Le feu.
La maladie du baiser,
yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour.
Le feu sauvage. On peut coucher dans la rue sans se faire piler dessus. Y'a des feux d'artifice, la salle de dentifrice. Les magasins sont ouverts très tard ce soir. On peut se piquer dans la rue en mangeant des pogos. Des policiers tout nus qui tirent dans des flaques d'eau. Les lampadaires sont verts, c'est fantastique.
Le monde!
Fantastique, fantastique. Oh oui, c'est fantastique, fantastique. Oh oui, l'humour est fantastique ce soir. Oh oui, l'humour est fantastique ce soir.
Louise Richer, bien Michel Tremblay.
Merci les garçons.
Et Denise Rollet. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, puisse l'humour continuer à nous divertir, à nous faire réfléchir, puis à refléter ce que nous sommes, à l'instar de toutes les autres disciplines artistiques. Merci infiniment.
Merci.
Merci, merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Juste pour être sûr, il n'y avait pas une autre affaire que les Denis avaient préparée que vous n'avez pas eu le temps de faire?
Oui, bien, on voulait faire les voisins intégrales.
Non, mais ça va?
Non, ça va, merci.
Okay. Vous savez que...
On est hors d'onde, là.
Guy Bertion pourrait vous confier des choses aussi.
Mais il ne fera pas.
Non, il ne fera pas?
C'est encore quelques années sur mon contrat ici. Okay. Prochain rendez-vous, 13 mars, 50 ans de design avec Frédéric Metz et Sylvie Berkowitz. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.